continuer le combat. Il ouvre du pardon devant les assassinats.
Antifasciste, antiraciste, Libre Radio, une antenne d'alerte et de combat. www.libradio.org.
Pardon devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes passés, jamais, non, jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Il fait froid, il y a l'hiver qui est là, il y a la neige, il y a la PAF, police aux frontières, car avant c'était que ça, qui suivent les gens. En fait, il y a une urgence. Donc la lutte aux frontières aussi faite par l'urgence, la crise immédiate. Parce que quand tu as des gens qui ont besoin, des besoins primaires, qui ne les ont pas, c'est une question d'émergence. Et puis, ça s'est développé aussi une réflexion qui a accumulé loin. Donc, se sont ouverts des refuges, des associations. Du côté français, au début, grâce à une convention avec la mairie qui était super solidaire avec ça, et du coup, a décidé d'aider. Et du côté italien, après, presque un an après, il me semble, ça s'est ouvert un refuge occupé dans le sous-sol de l'église. Pourquoi ? Parce que la lutte aux frontières, c'est des gens en situation de besoin tout de suite, besoin physique, comme à manger, à dormir, à s'habiller, surtout parce que les vêtements techniques, c'est pas donné. Et quand tu as marché 3, 4, 5 heures et tu n'as pas de bonnes chaussures pour te garder les chauds, les pieds, pas au chaud, mais juste sec, et ben c'est compliqué. Parce qu'après 10 minutes, tu peux commencer à avoir des problèmes. Et bon, et du côté italien, il y a eu cette occupation qui en fait est née car il y avait la volonté de faire quelque chose. Oui, aussi d'héberger les gens, de le sens être solidale avec les gens, parce que la première personne touchée par la frontière, c'est une personne sans document. Et je ne dis pas migrant, parce que je n'aime pas trop ce mot. J'ai aussi été une migrante, et je n'aime vraiment pas. Parce que ça met tout de suite, je pense personnellement, une espace, déjà en classifiant une personne. Et oui, donc le lieu était en soutien des personnes sans document, qui étaient les premières à lutter en passant les frontières pendant 10 000 km, quoi. Et de l'autre côté, il y avait aussi une réflexion du pourquoi, en fait, on veut être là. Pas parce que pauvre personne, pas parce que la pauvre personne est dans la rue, pas parce que, voilà, on n'est pas d'accord avec tout le monde, donc avant d'être solidaire avec toi, il faudrait qu'on se connaisse. C'est pas possible à l'autre frontière. Mais la réflexion de qu'est-ce qu'une frontière signifie, déjà, dans une montagne où il y a déjà une lutte, une recherche de revenir au terrain, de revenir, de remettre en cause qu'est-ce que c'est la propriété privée, l'autorité d'un État qui décide quoi faire avec ce lieu, cet espace. Tout simplement, en fait, qu'est-ce qu'une frontière signifie et quelle est sa conséquence? Et par rapport à ça, comment on peut agir? En fait, c'est ça un peu la question que je pense qu'on peut se poser. Donc voilà, un mouvement est né qui était briser les frontières tout d'abord pour héberger des gens. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes et ça devient aussi, enfin, parce que quand on milite, surtout dans la lutte aux frontières, c'est très facile de se laisser prendre, se faire prendre et complètement effacer sa propre vie. Donc c'est aussi important de trouver des pratiques et des moyens pour garder sa santé mentale. Et bon, peut-être l'occupation, je ne sais pas si c'est ça, mais on pourra discuter en fait aussi des limites qu'on fait face du moment où on veut essayer de faire quelque chose. Donc la position était celle-ci, donc de réussir à partager aussi avec des personnes de passage les valeurs antimilitaristes qui dans la vallée Valsusa et la Val Claré, du coup tout le côté de Briançon, est très... Les gens se sentent assez touchés. On a les Alpins, la Légion étrangère, la PAF, les gendarmes, tout ce qu'ils font en fait. Et donc, oui, la question antimilitariste, quelle est la place de la frontière en ça, la question du coup de l'autorité de l'État dans un lieu, et même si des personnes sont contre ça, parce que quand même je pense que c'est important, je pense que je l'ai déjà dit, mais l'envie d'aller contre la réalité qui se passait au début 2017-2018, ce n'était pas des militants du centre social qui ont toujours fait ça, et du coup ils ont décidé qu'il fallait faire ça, mais c'était surtout des gens du lieu, et c'est ça aussi je pense la magie qui m'a attirée, enfin personnellement, dans cette frontière en particulier, parce que de frontières il y en a plein de monde. Et antimilitariste, anti-autoritaire. Voilà, le fait de réussir à avoir un lieu où en fait on met en discussion le système d'accueil de l'État, qui part depuis la Grèce jusqu'ici et qui traite les gens comme des cons en fait, et des connes, parce que comme si les personnes ne sont pas venues en Europe avec déjà une idée d'où aller, qu'est-ce que faire, etc., etc., mais ce truc de mettre les gens dans un camp, etc., etc. Le système, du coup, voilà, de l'accueil européen et comment, au niveau de la loi, en fait, c'est bien fait pour empêcher aux gens d'avoir des documents et devenir, en fait, invisibles. Et si tu dégages, en fait, si tu sors de l'Europe, ça va être très difficile de rentrer à nouveau. Je pense que je suis en train d'oublier quelque chose, mais voilà. Et la questionnaire.
La questionnaire, bon, de l'institutionnelle. Je ne sais pas exactement si on m'a tout dit. En gros, pour revenir un peu sur cette frontière, je pense que aussi ce qui a fait qu'il y a une vraie mobilisation qui a eu beaucoup de succès à un moment, qui s'est montée, c'est parce que il y a des personnes. En fait, il faut voir que c'est un endroit où en fait les gens ils passent la frontière tout le temps. C'est un peu le. Il y a beaucoup de Français qui sont de l'autre côté. C'est des zones de montagne. En fait, tout le monde partage un peu ces territoires. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont à Briançon. Et en fait, il y a très rapidement eu des dialogues entre des gens des deux côtés. Ouais, mais c'est quoi cette situation? Mais là-bas, il y a des gens. Il y a des gens qui sont perdus dans les montagnes et qui vont être blessés. Et je pense qu'un des grands succès, ça a été aussi de rassembler. Je sais pas si on peut parler de communauté, mais il y a vraiment des liens en fait entre les gens qui ont fait que. Aussi, une des premières occupations, ça a été fait ensemble. Des choses qui ont été faites ensemble et qui n'auraient pas marché. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je peux vous donner un exemple de la complexité qu'on peut rencontrer. Même quand on est convaincu en fait qu'on milite contre l'autorité, on va par exemple être, du côté italien, quelqu'un se fait refouler par la police alors que la personne essaye de passer en France. La personne se fait refouler, revient dans le lieu occupé, la personne s'est fait tabasser et s'est fait voler tout son argent. Le problème, c'est que ça s'est passé en France. Donc s'il faut faire quelque chose, il faudrait éventuellement prendre une action légale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut contacter des avocats en France. Et il y a maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des actions en justice qui ont marché aussi, qui sont allées jusqu'à condamner en fait des policiers aux frontières. Avec des preuves, avec des vraies condamnations assez fortes, pas assez, je pense. Mais ça a été permis parce que en fait, il y a eu des dialogues et parce qu'en fait, il y avait des avocats derrière. Il y a des gens qui ont continué d'être en contact avec la personne, de l'héberger, de la soutenir et de faire que ces procès qui sont peut-être une reconnaissance des situations des personnes aboutissent. Mais après, moi je crois pas spécialement à la justice, et puis faire des procès contre la police, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais c'est aussi là où c'est intéressant, quand on est militant, qu'on se définisse comme anarchiste ou pas, ou juste anti-autoritaire, c'est quand on lutte contre les frontières, ça se traduit aussi des fois par du soutien à des personnes sans documents, parce que pour moi c'est pas juste être à la frontière et dire on n'est pas content, c'est aussi genre tout le temps en fait dans nos rapports avec des personnes qui n'ont pas le même statut légale que nous, on est tout le temps en fait en train de faire des papiers pour que la personne arrive à rentrer dans les cases et dans les exigences que l'État lui demande. Et du coup, c'est aussi une position particulière en tant que militant. C'est-à-dire que nous, pour nos vies personnelles, moi j'ai habité avec des gens qui brûlaient leur passeport et j'étais là, mais t'es fou, faut le donner à quelqu'un. En fait, c'est une position assez particulière, je pense qu'il y apprend beaucoup.
Voilà. Et la richesse du fait qu'il y a des personnes qui ont envie de lutter de façon différente, enfin, sur plusieurs niveaux. Parce que je pense que si effectivement il n'y avait pas eu des gens qui ont décidé de se mettre, de tout simplement agir de façon différente que le militant tout au noir énervé et du coup qui parle avec personne, ça ne serait pas été possible d'aider cette personne.
Bah non,
et
déjà,
tous les autres personnes, quoi.
Je ne suis pas une famille, elle ne va pas aller te voir si t'es en cap.
Donc c'est clair, c'est pour ça que c'est important vraiment que la lutte aux frontières, c'est très diversifié et c'est important de ne pas se fixer sur aucun. C'est comme ça, quoi. Parce qu'il faut l'aide de tout le monde. Et parce que surtout, on a en face des personnes. Et les personnes ont aussi des besoins. Et c'est assez facile de dire qu'on peut avoir tout. De mettre ça en critique.
Je pense que, on en a discuté un petit peu avant, mais le truc hyper particulier, et je pense qu'il n'est pas forcément facile pour tout le monde quand on est sur place, c'est comme on disait avant, que les personnes qui sont là en face de nous, ce n'est pas des personnes qui ont choisi d'être là. Du coup, ce n'est pas le même processus que de se dire, ben, je sais pas, on va se réapproprier cette terre ou bien ce bâtiment en revendiquant nos valeurs qu'on a en commun et on est tous d'accord là-dessus et tout le monde est consentant et consentante d'être là en fait. Là, c'est pas du tout le cas. Les gens, ils passaient la frontière bien avant que les militants et les militantes ils arrivent ici. Et du coup, c'est des personnes ben, qui n'ont pas choisi d'être là, qui ont beaucoup plus de difficultés à se déplacer et juste à donner leur avis en général dans ce territoire-là. Et du coup, on se retrouve des fois dans des situations où on a des discussions avec les personnes avec qui on passe les journées, qui nous disent « mais en fait, moi, je suis royaliste, je suis hyper républicain, moi, j'adore Trump, je sais pas, je... » Des fois, il y a des gens qui arrivent et qui nous disent « ah, mais vous êtes des anarchistes, qui prennent leurs enfants par la main. » Enfin, c'est quand même particulier parce que y a des personnes qui ont choisi d'être là et d'autres qui n'ont pas choisi d'être là. Et du coup, on arrive avec nos grandes valeurs et puis nos grands principes. Et c'est pas tout... en général, on n'est pas forcément. Enfin, tous les jours, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, en fait. Même des choses qui, dans les milieux militants, peuvent paraître hyper basiques, du genre féminisme, inclusivité, je sais pas, n'importe quoi. Mais en fait, on se retrouve avec des personnes qui, comme on disait avant, sont pas forcément déconstruites sur certains trucs, de la manière que si je vais au milieu de Genève et puis que je parle avec tous les passants et les passantes, bah, les gens avec qui je vais pas être d'accord. Bah, là, c'est un peu pareil, il y a des personnes de plein de milieux différents. Dans certains cas aussi, je pense que c'est important de se rendre compte que les personnes qui peuvent faire le voyage, c'est des personnes qui forcément ont plutôt en fonction des pays, des classes sociales peut-être plutôt élevées aussi. Et du coup, on ne partage pas forcément les mêmes quotidiens. Et qui viennent là, alors il y a beaucoup de personnes différentes, il ne faut vraiment pas faire de généralité, mais il y a des personnes qui sont clairement là pour des situations juste hyper pratiques de dans mon pays c'est la guerre, on veut me recruter à l'armée et du coup je me suis barrée. Puis il y a des personnes qui sont là parce que tous les 6 mois par an, ils viennent travailler en Europe. Il y a des personnes qui sont là parce qu'elles devaient juste repasser en Italie, faire revalider leur visa, puis revenir. Enfin, il y a plein de situations différentes et quand même une grande majorité de ces personnes qui sont très capitalistes et qui veulent aller chercher de l'argent, aller travailler quelque part en Europe parce qu'il y a un rêve européen qui est vendu à tous les pays en dehors de l'Europe, qui fait que ben, aussi il y a beaucoup de désillusions des personnes qui arrivent et... Enfin, voilà. Ça fait une espèce de melting pot de points de vue et de vécu en fait qui est hyper particulier. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui sont déjà passées et qui nous ont dit mais moi-même dans mon université, j'étais dans des combats anti-autoritaires, anti-impérialistes, anti-coloniaux et c'est trop génial de se rencontrer en fait, même si cette différence légale fait vraiment chier. Mais enfin, voilà. Bref, je voulais juste souligner ça parce que ça a l'air hyper complexe comme situation. Et là, parfois, le point de vue des gens change aussi quand ils arrivent en Europe, en fait, parce qu'il y a des personnes qu'on a rencontrées quand ils sont arrivés, Et puis en fait, 2 ans après, ben, c'est plus du tout les mêmes discours, et c'est plus les mêmes points de vue au sujet de l'Europe en général, du travail, du capitalisme, etc. Je pense que c'est intéressant, tout ça. Je trouve.
L'exemple parfait, c'est une personne qui est arrivée à Oulx avec le rêve de faire partie de la Légion étrangère. Après, je pense qu'il a vu la Légion étrangère sur la frontière, qui voulait l'arrêter. Mais puis finalement, il a changé d'avis. Il s'est posé quelques questions. Donc, c'est clair que c'est aussi un parcours. Enfin, c'était juste un exemple. Puis, enfin, juste pour ça, c'est un peu mon avis à moi, par contre, aussi. Et, en fait, sur cette frontière aussi, c'est une frontière où il y a des organisations institutionnalisées, mais que, j'aimerais bien dire, n'ont jamais fait le pas. Où tu ne peux pas revenir en arrière. Alors qu'il y en a qu'il faut vraiment combattre, lutter contre de tous moyens, comme la Croix-Rouge ou OIM. Et OIM, c'est l'Organisation internationale de la migration en Europe. Et leur but, c'est de... Bah déjà, c'est des gens racisés qui parlent différentes langues, sauf l'italien et le français, souvent. Enfin, ils le parlent, mais c'est très rare que tu les entends parler. Donc, et leur but, c'est de repatrier les gens avec une prime de 500 euros. Et ils sont à l'intérieur de certains refuges. Après, c'est clair, il faut bien savoir faire la différence. Il y a aussi des organisations, en fait, qui sont juste le visage gentil de l'État, tout simplement. Car il y a un souci, il y a une crise, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on peut faire ça quand même, donner entre guillemets un coup de main, mais en faisant nos intérêts. Alors qu'il y a des réalités qui sont vraiment là pour faire la différence. Et pas seulement... Voilà, c'était en fait pour être clair et ne pas faire une différence nette entre les associations, enfin entre réalités, les légal et pas légal. Voilà. Ça, après, si ça peut intéresser, on peut bien mieux parler aussi de la conséquence qui peut être assistentialiste ou pas.
Juste donner un exemple pour illustrer les propos de mon camarade. Par exemple, il y a une association qui héberge les gens qui se sont fait refouler de la frontière en Italie, les gens qui voulaient aller en France, qui se sont fait refouler de la frontière, qui sont en Italie là-haut. Et cette association a essayé, mais ne parvient pas, même légalement, à maintenir ça, parce que je pense qu'il y a des pressions politiques, mais ils ne font pas d'accueil de jour. C'est-à-dire qu'en fait, à 7h ou 9h du matin, à 9h du matin, tout le monde dehors, quitte à passer la journée dans la rue, puis être réhébergé à partir de 19h. Et en fait, c'est des gens à qui on parle et qu'on connaît, on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et ils ont vraiment essayé de faire plus. Mais peut-être qu'ils n'ont pas pu dire, en fait, on aurait pu dépasser ce stade-là. Mais donc c'est vraiment une volonté que les gens ils repartent de la zone frontière. S'ils sont accueillis que la nuit, que tu dois passer la journée dehors, c'est dans un endroit où il n'y a absolument rien d'autre, rien à faire. Donc. C'est le genre de solution mise en place par les États et soutenue par les États. Et c'est vers ce genre d'associations que vont aller donner des financements, des subventions d'État parce qu'il y a des gens qui passent les frontières et qu'il faut soutenir. En fait, ils vont capter des fonds.
Peut-être avant d'enchaîner sur la discussion, ce que je n'ai pas dit, mais en général, les formats ici, c'est. Là, on parle un petit peu d'un sujet, puis après, on laisse libre cours à des questions et une discussion sur le sujet pour essayer de développer un peu l'idée ensemble, etc. Peut-être on pourrait parler un peu vite fait de la répression qu'il y a actuellement à la frontière, ou qu'il y a eu à cette frontière-là.
Bon, ça, c'est mon avis. Après, je serai un peu plus objectif. Le tribunal de Gap, il est, si ça ne se passe, il est grave chaud. Il aimerait mettre tout le monde à l'emprisonnement. Arrêtez votre boum. Mais oui, en fait, du côté italien, il n'y a pas une grosse répression, sauf une répression politique, donc contre les gens qui étaient politisés en tant qu'anarchistes. Donc, pour, enfin, tous des petits trucs, mais ça, c'est la répression en Italie, en fait, tout court, pour les différentes occupations, parce qu'au final, depuis 2018, il y en a eu 4. Et tous des petits plaintes comme résistance, outrage, ça suffit de dire bon, vas-y, tu fais rien de toute façon de ton travail. Une personne de la force de l'ordre qui demande les documents à que, par exemple, à moi, alors qu'il y a 50 personnes dans une place sans documents. Et voilà, de outrage, résistance, qu'avec le temps, c'est des petites plaintes, mais quand tu commences à en avoir 2, 3, 4, 5, parce que tu passes beaucoup de temps là-bas et peut-être dans d'autres luttes dans le même pays, et bah, tu vas finir passer beaucoup de temps en assignation de domicile et, ou autre, quoi. Et du côté français, par contre, les choses sont bien différentes. La différence entre cette frontière et, par exemple, Calais, j'aimerais bien dire, c'est que, ou Ventimiglia, c'est qu'il n'y a pas, il n'y avait pas d'accord entre France et Italie pour que l'Italie défende la frontière et empêche les gens d'arriver à la frontière. Maintenant, c'est en train de se mettre en place, mais on n'est pas au niveau où c'est la France a payé pour ce contrôle, c'est la France a donné des instruments, a donné des flics, en fait, pour faire des ronds, etc., etc. Donc on est encore un peu assez bien. Mais il y a eu pas mal de gros procès, d'ailleurs, notamment pour des procès plus individuels, comme contre beaucoup de maraudes. C'est des gens solidaires au fait que dans des situations de péril, donc quand, par exemple, en hiver, quand il y a la neige, etc., etc., ils essayent d'assurer une présence à la montagne pour éviter que les gens marchent trop dans la neige, dans la montagne haute, parce que quand même on est à 1800 mètres d'hauteur, le village. Et après, il faut encore monter. Du coup, c'est facilement arriver à 2000, surtout si tu as des flics en fait, qui te suivent. Du coup, tu montes encore plus. C'est assez dangereux. Et oui, du coup, il y a les maraudes qui essayent d'y être le plus possible. Aussi, si c'est pas aussi facile. Et contre eux, il y a eu au début pas mal de procès pour aide à l'entrée au Trospin. Aide à l'immigration clandestine, il y en a plusieurs. Un, donc ça, c'est quand tu aides au niveau de transport des personnes sans documents. Ça, c'était vraiment distribuer assez facilement. Que je sache, personne n'a jamais fait de prison ferme pour ça. Il n'y a eu que des sursis.
Ouais, souvent, ça a été annulé dans le sens où, par exemple, en fait, les maraudes, c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens vont essayer de récupérer les personnes juste de l'autre côté, en France, de l'autre côté de la frontière. Et dans ces cas-là, si tu prends quelqu'un en voiture en France et que tu l'emmènes ailleurs en France, techniquement, c'est pas condamnable. Donc souvent, les procès sautent. Après, du côté français, il y a vraiment une espèce de politique de matraquage des militants. C'est-à-dire c'est amende tout le temps, dès qu'il y a un contrôle, c'est outrage. C'est même des contrôles de gendarmerie sur les voitures. Sur une voiture, on trouve tout le temps un truc qui ne va pas. Et mais après, il y a des gros procès. Il y a eu le procès des 3 plus 4.
Et du coup, ça, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est très souvent, en fait, presque tous les jours, d'aller contre des gens pour les démotiver. Et aussi d'utiliser des grands procès, en fait. Les deux grands procès, c'était les 3 plus 4. Et celui d'Emilio à travers un mandat d'arrestation européen qui est encore en cours. Les 3 plus 4, les deux, ça a été pendant des événements. Celui des 3 plus 4, c'était parce qu'il y avait plus de générations identitaires qui étaient entre Bardonecchia et Briançon, du coup sur le col de l'échelle, car il y a plusieurs passages en fait, de cette vallée. Il y a plusieurs montagnes, et par rapport à où tu veux passer, en fait, c'est plus facile. Tu vas de l'autre côté, vers Gap ou vers Grenoble. Et du coup, voilà, le 3 plus 4, c'était, il fallait bien que quelqu'un paye, parce que c'était hors de question qu'un passe à montagne, du coup, un passage à la montagne qui a l'objectif d'arriver au même rapport de force des flics, et donc du moment où il y a beaucoup de personnes qui passent une frontière, qu'ils soient avec ou sans document, ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. S'il y en a 400, 500. Après ça, voilà, la fin, des personnes ont été arrêtées. Après, bon, je ne sais pas si on veut donner quand même des infos de plus.
On peut en parler éventuellement après, mais il y a eu des... Trois personnes ont été mises en taule, et des procès qui ont duré plus de 4 ans, grosse histoire, et qui sont finis finalement par une relaxe.
Et Emilio, on est en cours. Emilio, en fait, ce que la différence avec ça, c'est que un mandat d'arrestation européen a été demandé. Cela après que le procureur de Gap a rencontré le procureur de Turin, tout en cachette. Et il y a juste une photo, enfin ça, on a su par une photo d'un journal de gossip en fait. Et oui, le mandat d'arrestation européen, c'est un nouveau moyen que depuis 2017 en Europe est beaucoup utilisé. Et ça fait très peur. En 2017, on parlait de 17 000 mandats d'arrestation. Et en 2020, on est arrivé à 25 000 dans toute l'Europe. Donc voilà, comme moyen répressif, c'est quelque chose de très dangereux. Heureusement, il est tombé, car il n'y avait pas de base. Car le point, c'était qu'Emilio, pendant une manifestation, en fait, c'était un camping de 3 jours qui après est devenu un rassemblement et qui est resté à la frontière contre l'expulsion de la deuxième occupation du deuxième refuge autogéré. Après, on pourra aussi parler de qu'est-ce que c'est en fait un refuge autogéré. Voilà, il était Emilio, c'est une personne, un militant aussi de l'OTAV, du coup du mouvement contre le train à haute vitesse entre le Lyon-Turin, qui a 67 ans, qui était juste un peu plus en écart, et il est accusé d'avoir tapé un flic de 21, un CRS de 21 ans de Paris, et qui s'est cassé un bras et deux côtes. Bon, dans le relevé médical, enfin, ça a été bien monté, mais ça c'est quelque chose de, qu'on connaît très bien de la prévue du tribunal de Gap. Il a été pris comme le chef du mouvement Passamontagna, alors qu'ils n'ont rien compris du mouvement contre les frontières à Clavière. Et voilà, c'est une volonté assez claire de taper contre une personne pour que tout le monde arrête, quoi. Car il risque beaucoup d'années, comme d'ailleurs les 3+4. Il commence dans les gros procès avec 10 ans, 12 ans. Et voilà. Donc au niveau répressif, quand même, on est en train de voir une croissance toujours plus et plus de fonctionnalités voilà, des flics, même si il faut assez rire, parce que dans cette manifestation, d'ailleurs, on a bien vu qu'ils ne connaissent rien à la nature, car ils étaient en train de se gazer, car ils étaient contre le vent, ils étaient en train de tomber par la montagne, parce qu'en fait, leurs équipements de CRS font en sorte que leurs chevilles ne sont pas mobiles, que tout leur corps a du mal à être en équilibre, etc., etc. Donc, parler de fonctionnalité, c'est assez exagéré. Mais quand même... voilà, ils ont de plus en plus d'argent et de force pour pouvoir être toujours plus répressifs du côté du territoire, du coup être présent là-bas, et aussi au niveau d'enquête, de réussir à prendre des personnes, de réussir à incriminer le plus possible, quoi, avec des trucs assez forts. D'ailleurs, cette rencontre, c'est pour ça qu'il y aura samedi.
Désolé. C'est pour ça. Comme vieille militante, je suis très heureuse de voir qu'il y a de la relève. Bonne soirée.
Peut-être juste pour samedi, préciser un peu, parce que la répression aux frontières, c'est hyper large, mais en gros, le but de samedi, c'est... Enfin, vu qu'il y a quand même, en fait, même les procès des occupations, les 4 occupations qu'il y a eu depuis 2018, ben, en fait, il y en a encore 3 qui sont un qui est terminé sur les 4 chemins.
Non, aucun est
terminé. À moitié terminé.
On est encore au premier niveau. Mais en Italie, ça prend 10 ans.
Ça prend longtemps.
Par procès.
Du coup, c'est concernant un peu toute la répression en général aux frontières et les coûts qu'elle va avoir. Ben, le but, c'est ouais, de faire des levées de fonds pour couvrir ces coûts-là, que ce soit pour Emilio, que ce soit pour d'autres condamnations qu'il peut y avoir à la frontière. Juste pour préciser.
Et pas que cette frontière.
C'est ça.
Il y a aussi des faits de Calais qui sont... D'ailleurs, le vendredi prochain, il y aura un procès, car à Calais, il y a eu deux grandes occupations. C'était un gros événement et voilà. Quatre personnes étaient incriminées de violences aggravées contre détenteurs de l'ordre public, la même qu'il y a eu pour Emilio. Et voilà, on va voir comment ça va se passer, mais oui. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait des soirées soutien. Et c'est aussi grâce au fait qu'en fait, il y a plusieurs réalités autour de nous en fait, qui soutiennent ça, qui est... la lutte peut continuer.
Alors peut-être on peut doucement switcher un petit peu sur la phase discussion. Genre, si des personnes ont des remarques, des questions, des choses à dire, libre à vous.
T'as parlé de la Croix-Rouge en mal et ça m'intéresse trop.
Alors la Croix-Rouge fait je vais essayer de je vous dis la Croix-Rouge prend des nombres, des numéros. Ces numéros sont pris grâce au fait qu'en fait c'est des volontaires, des bénévoles de la vallée qui font du bénévolat et qui font ça à l'intérieur du refuge institutionnalisé en Italie. Le refuge institutionnel, enfin, les trois communes de frontière, l'année dernière, comme quand la Casa Cantoniera, du coup le deuxième refuge, a été expulsé, après 4 mois, tellement ils se plaignaient, car le refuge était ouvert grâce aux bénévoles d'une asso qui s'appelle Valsus de Frecontine, c'est des gens avec qui aussi on s'est organisé. Eh bien, grâce à tous ces nombres pris, grâce aussi à la Croix-Rouge, 780 000 euros ont été donnés sans aucun contrainte. Du coup, ce que les communes ont fait avec ça, on ne sait pas. Donc, déjà, un, c'est le souci de qu'est-ce qu'ils font avec les données. Car quelque chose, c'est des bénévoles, même si perso, je ne suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord. Si des bénévoles en groupe sur WhatsApp en disant « Ouais, il y a 30 personnes qui sont parties pour le communiquer. » Parce que, en fait, tu n'as pas envie que... Il n'y en a que 25 qui arrivent et peut-être 100 qui sont à la montagne, car c'est arrivé qu'après que la neige se fondre, il y a un corps qui a été retrouvé. Donc c'est aussi quelque chose au niveau de sécurité. Ils font ça. La Croix-Rouge fait les refoulements depuis la PAF dernièrement. Donc va à la PAF, à la police aux frontières, et ramène les gens de là-bas au refuge des Salésiens. Et donc ils font le travail des flics. Alors que s'il n'y avait pas les flics, il n'y avait pas la Croix-Rouge, les gens sortiraient de là-bas, les Français, comme ils faisaient à l'époque, les ramèneraient à la frontière physique, et après tu ressailles, quoi. Donc c'est le souci, c'est qu'ils font des plans avec la préfecture de défense de la frontière, car il faut qu'ils aident les gens, et que les gens ne doivent pas partir à cette frontière, car elle est dangereuse. Donc ils empêchent les gens de partir, même si t'es bénévolat, même si t'as du mal à comprendre en fait quoi qu'il soit. Voilà, donc le souci de ça, c'est que l'État se cache la face derrière, ça c'est mon point de vue, derrière l'idée d'une association, d'une organisation humanitaire, etc., etc. D'ailleurs, pourquoi la Croix-Rouge a son siège à Genève et pas au Panama? Enfin non, pas au Burundi.
Ça a été créé à Genève.
Voilà quoi.
Mais, donc c'est des collabos en gros.
Oui.
C'est l'histoire de la Croix-Rouge de faire cette technique. C'est son histoire quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des organisations qui sont extraites de cette Croix-Rouge pour créer d'autres associations, parce qu'il y a eu un besoin de dénoncer ce qui se passait, un besoin de prendre une position politique. Et la Croix-Rouge ne le fait pas, et ne le fait toujours pas, en tout cas celle qu'on voit en Italie actuellement. À cet endroit-là, ne le fait vraiment pas. Même quand on va leur... Enfin, je veux dire, on a discuté avec eux, hein, c'est pas faux d'avoir essayé. Mais vraiment, c'est... Ils captent pas le problème.
Pas parler quand même de la vision autoritaire qu'il y a, de la façon avec laquelle ils traitent les camarades qui peuvent sembler de genre féminine, comment ils traitent les camarades qui ont l'air d'être du genre masculin, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de assez lourd à Oulx. Après, tout le reste, je ne voudrais pas non plus cracher. Mais je parle de ce que j'ai connu là-bas.
Oui, tu as aussi mentionné génération identitaire. Qu'est-ce qu'ils font là-bas
Alors, génération identitaire, comment il s'appelle? Ouais, c'est toujours génération identitaire. En 2018, ils ont loué un hélicoptère, ils se sont habillés autant que flics et ils poussaient les gens au col de l'échelle. C'est une des marches la plus longue et plus haute pour arriver de clavier, du côté italien à Briançon. Et au fait, sur Modane, quand même, génération identitaire, quand j'étais en France, depuis jusqu'à 2016, je suis sûre et certain, parce que j'ai connu personne qui le faisait, faisait des ronds contre les personnes sans documents pour les pousser en Italie, pour pas les faire rentrer. Du coup, c'est une vallée qui se base beaucoup sur la montagne, qui avait des petits machins de 500 habitants, jusqu'à, je sais pas, 2000, 3000, mais il n'y a pas de grosses villes. Les plus grosses, c'est Gap et Grenoble. Et du coup, il y a une mentalité dans certains lieux assez de droite. Bah, même une voiture à la Casa Cantoniera a brûlé en 2020. Et c'était des fachos, quoi. Ils l'ont dit assez clairement. Ils ont cassé les vitres, coupé l'eau, coupé l'électricité. Enfin, à Clavière, agressé physiquement deux camarades. Pour qu'après les flics donnent la raison à ces deux gros machas, quoi, contre ces personnes de 50 kilos. Et oui, il y a une présence assez forte. Et du coup, vu qu'il y avait Génération Identitaire avec un hélicoptère et tout le machin, il y a eu un passe à montagne. Hein. Donc c'est un événement, une pratique en fait politique, c'est pas un événement, c'est une pratique politique qui essaye d'arriver au même rapport de force avec les flics. Et dire, vous bloquez les gens parce qu'ils n'ont pas de documents, et bien si on est tous ensemble, vous ne pouvez pas nous bloquer. Et si tous ensemble, on arrive jusqu'à Briançon au refuge, et bien ça c'est une façon de enlever au contrôle de l'État, et donc éviter aussi que l'État sache combien de personnes passent et pouvoir donner des remboursements par personne aux communes de frontières, par exemple. Et voilà.
Et vous savez d'où ils viennent? Est-ce qu'ils sont tous originaires de cette région ou ils viennent des grandes villes? Ils sont organisés pour être là-bas ou...
La plupart, ils habitent là-bas.
Non,
pas du tout.
Je suis pas super sûre.
Ah, bah, Cesane, Bardonecchia.
Ça, c'est en Italie.
Non, les Français de génération d'identité.
Pardon, c'était les gens d'Italie qui faisaient ça. C'était pas des Français.
Tu parles de quoi, excuse-moi?
Des généraux, de Passa Montagna contre Génération.
Ah, il y a des Slovaques, des Bulgares, pour cette action spécifique, on a deux doudounes bleues, là.
C'est l'Europe.
Ouais.
Il y avait, ouais, c'était
Defend Europe, Europe.
C'était vraiment des gens un peu de toute l'Europe, et il y avait pas mal de gens de l'Est, de l'ordre de l'Est.
Il y a eu deux situations, Génération Identitaire d'un côté et Defend Europe de l'autre, non?
Non,
je crois que
l'action Defend Europe, ça a été lancé par Génération Identitaire. C'est une campagne.
En fait, c'était au sein de leur campagne Defend Europe, il y avait ces visuels, il y a eu des stickers, et il y a eu du coup cette... c'était un peu une vidéo de publicité qu'ils voulaient tourner, de dire voilà, en fait, vous aussi, vous pouvez aller refouler les personnes qui passent les frontières. Et en France, on sait qu'il y a... Enfin, il y a deux ou trois personnes qu'on a identifiées comme ayant des liens avec la région de Briançon, mais c'est pas des résidents permanents. Même s'il y a des personnes, je suis sûr, qui sont d'extrême droite, il n'y a pas tellement de groupes fascistes locaux actifs. Et d'ailleurs, les personnes ont eu des contrôles d'identité et ensuite des procès. Pour s'être substitué aux actions des forces de police. Parce que quelqu'un qui n'est pas flic n'est pas censé faire ça. Mais ils n'ont pas eu grand-chose. Je ne sais plus exactement. Et ça s'est réglé. Il y a eu une première condamnation et puis un appel où ils ont été...
Sur Modane, je suis sûre et certaine. Il y a deux, trois personnes que j'ai rencontrées pendant que je faisais les bio du Rhin. Bah, deux, c'est des trucs de chi. Maestri de chi.
Maître
de ski. Maître de ski. Et eux, ils faisaient les rôles le soir.
Mais ça, c'est à Modane.
Mais par contre, lui, c'est à Modane, c'est 2016. C'est pas la même chose. Après que maintenant qu'il soit organisé, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a rien vu d'action assez forte.
En tout cas, depuis 2018, il y a eu des actions contre la CASA, mais il n'y a pas eu de retour, par exemple, de mission de génération identitaire à cet endroit-là, avec, pareil, l'hélico, la campagne de pub et tout.
Et si je ne me trompe pas, la fin du procès, c'était... Le thème principal, c'était une dissolution du groupe. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça représente en pratique.
C'est pas lié à cet événement-là en particulier, mais oui, la génération identitaire a été dissous il n'y a pas très longtemps.
Je trouve que ça change en pratique.
Deux questions techniques pour comprendre, pour mieux comprendre quoi. Pourquoi les gens ils passent par là? Enfin, pourquoi ils n'utilisent pas par exemple d'autres cols des Alpes pour aller en Suisse ou ça? Et est-ce qu'il y a des passeurs qui font ça pour des raisons pécuniaires? Parce qu'on entend souvent parler sur d'autres frontières, à Calais ou en Grèce, ou dans la Méditerranée, des passeurs, mais on ne peut pas trop parler sur les frontières alpines.
En fait, il y a des réseaux de passeurs qui sont organisés. Et c'est aussi pour ça que souvent... c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit surtout des hommes seuls dans... tous les documents vidéo qu'on a sur les frontières qui vont brûler la frontière eux-mêmes seuls, parce que il y a les réseaux de passeurs sont beaucoup plus utilisés par des femmes. Ça veut pas dire qu'elles passent pas, en fait les femmes représentent plus de 50% des personnes migrantes, mais du coup dans ah oui, et puis il y a des gens qui passent en Suisse vers notamment il y a eu des trucs je crois vers le lac de Côme. Et Kiasso, et... mais moi je connais pas trop là-bas. Je crois que les gens en Suisse, la majorité des gens sont arrêtés dans les trains avant d'arriver à destination. Je crois qu'il y a un gros contrôle là-dessus, mais bon, je connais pas trop. Et pourquoi les personnes passent là? T'as 26 000 ou t'as l'autoroute qui passe, t'as le train qui passe, c'est assez vite fait. Et mais il y a des contrôles énormes en fait à 26 000. Et bah je pense, c'est pas une réponse exhaustive parce que je peux pas dire pourquoi les gens passent là, mais je pense aussi que c'est un truc de route et d'accès qui tourne sur des groupes, par des contacts. Des fois il y a des gens en fait, ils nous disent oui, en fait moi j'ai un pote, il est passé il y a un an et demi, il m'a dit de passer par là. Ou alors, des fois, en fait, on est tombé sur des gens que leurs passeurs les avaient laissés tomber en disant « Voilà, t'es arrivé devant la porte du refuge autogéré, donc en Italie. » La personne dit « Bah cool, je suis en France, trop bien. » Et puis...
Il dit « Ouais, j'ai payé 200 euros, vous me ramenez en France ?»
Voilà, qui pense que... Et donc, après, dans l'organisation, comment on fait? C'est-à-dire, on a toujours dit que les passeurs n'étaient pas les bienvenus dans les refuges autogérés. On a pu des fois identifier des comportements des gens, et quand en fait on a la conviction, puis qu'on vérifie assez vite qu'il y a une personne qui est là pour se faire des clients, ou qui est là parce qu'elle a un contrat avec une autre, généralement on avait des réactions très fortes, assez rapidement, c'était dehors en fait, c'est pas un endroit pour les passeurs. Après on a su aussi après coup qu'on avait hébergé des gens, et qu'en fait une personne du groupe, c'était la personne qui connaissait déjà, et qui du coup faisait... Il y a différents trucs, il y a la personne qui a déjà fait et puis qui va se faire payer 50 balles par les autres parce que la personne connaît déjà le chemin, et puis il y a le réseau organisé, et ça souvent c'est des gens qu'on voyait pas, souvent on voyait plutôt des gens qui faisaient ça de manière très occasionnelle. Je sais pas si j'ai répondu.
Après c'est aussi... En fait à Ventimiglia, il y a des accords entre France et Italie pour éviter que les gens passent la frontière. Et la France paye les Italiens pour éviter ça. Avec des voitures et des équipes mixtes, avec les Italiens qui contrôlent tous les trains qui partent, et les Français, les trains qui arrivent, Donc c'est aussi parce que c'est une frontière beaucoup plus difficile à passer par rapport à celle de Clavière. Après, celle de Clavière a commencé à être utilisée plus en masse après la fermeture des frontières, après les attentats du Bataclan. Et oui, par rapport aux passeurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. De grands trucs qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a des gros trucs qui sont en train de se passer parce que les gens disparaissent. Des gros groupes de gens qui disparaissent. Du coup, il y a eu plusieurs femmes, moi, ils m'ont appelé trois fois pour traduire, trois fois m'arabe qui semblait en train d'être agressée verbalement. Alors en fait, que c'était le passeur qui voulait se faire payer tout court pour la ramener, quoi. Et pour les ramener. Et du coup, comment c'est possible lutter contre ça? C'est très difficile. C'est en parlant aux gens et en disant très clairement, tu peux y arriver de toi-même, car tu l'as fait jusqu'à là, et tu n'as pas besoin de payer, et tu n'as pas besoin d'être la victime d'un système économique de merde, quoi.
C'était juste par rapport à la frontière comme au Casso, en fait, là-bas, c'est ce côté-là. Normalement, Como, c'est la gare de Como, ça a été... ça restait comme, en fait, une maison ouverte pour beaucoup de personnes pendant les dernières années qui ont vécu dans la gare de Como. Et c'est assez... connu aussi au Tessin qu'en fait dans la nature il y a pas mal de contrôles thermiques.
Comme à Briançon.
Du coup ça s'est bien passé ce côté-là, mais à comment ça a été pas mal de fréquenté en fait. Les gens ne sont pas vraiment réussi à passer si facilement là-bas. Ils sont restés à...
Pour ajouter un élément à ta question aussi sur la frontière, c'est d'imaginer qu'elle est mobile, la frontière, pour les personnes sans papier. Pardon. Et du coup, tu peux passer 26 milliards facilement à pied, mais arriver à Marseille, une grosse ville, c'est difficile. Si tu n'es pas en voiture, en fait. Si tu passes la montagne, une fois que tu as passé la montagne, tu es à Briançon, qui est juste après la montagne, c'est facile de pouvoir splitter et d'aller vers Gap, vers Grenoble, vers ailleurs. Du coup, je pense que c'est un truc à penser, que la frontière, elle n'est pas juste le seul endroit, mais elle s'étend jusqu'au moment où la personne, elle peut être un peu planquée, quoi.
Et pour ajouter aussi, justement, à Naples, ça se passe un peu par les contacts, tu vois. Il y a des communautés, il y a des Maghrébins, des Africains, chaque communauté a là ses contacts. Par exemple, nous, les Maghrébins, là-bas, on a des contacts par 26 milliards avec des passeurs... avec l'argent, bien sûr. Et les Africains, ils ont d'autres réseaux. Chacun, tu vois, ça se passe comme ça. Et avec les contacts. Par exemple, nous, les Maghrébins, moi, j'étais à Naples. Je ne sais pas s'il y a un passage vers Briançon et tout. Vraiment, je ne savais pas. On a fait des contacts là-bas. Ils ont dit, on avait des téléphones des passeurs de 20 milliards jusqu'à Nice. Après, il y a beaucoup aussi des personnes autonomes qui font ça, voilà, tout seul, ils essaient et tout. Et généralement, ça se passe comme ça, quoi.
Il y a aussi un truc pas mal sur la question des passeurs, c'est que c'est des fois auto-organisé entre le même groupe de personnes qui font le voyage ensemble. Et ça, c'est une grosse défense qui a été faite à Calais sur tout le martel médiatique pour dire on arrête les passeurs à Calais, je sais pas combien il y a de migrants, de personnes sans papier qui sont en prison, accusés d'être des passeurs, alors qu'en fait c'est juste une petite réunion entre nous, t'es le dernier arrivé, ou t'es celui qui se le sent le plus, ou celle qui se le sent le plus, c'est toi qui fermes le camion après qu'on soit monté. Et puis après, du coup, le prochain départ, c'est qui a fermé le camion, qui montera dans le camion, et ce sera une autre personne qui fermera. Et si cette personne, elle est filmée au mauvais moment, contre les mauvais moments, elle finit 3 ou 4 ans en prison en France, dans le Nord. Voilà, c'est du terrorisme. Il y a quand même pas mal d'auto-organisation. Et les réseaux No Border, quand il y a eu des moments forts, d'organisation un peu internationale de militants, c'était du coup de savoir où étaient les flics dans les gares d'arrivée, dans les points de frontière. Et du coup, c'est là où on avait besoin de beaucoup d'argent, en fait. C'était pas une voiture, mais deux voitures pour faire un passage de frontière, avoir des cartes téléphoniques un peu partout, être disponible dans le temps et appeler. Est-ce qu'il y a des flics à la gare du Nord? Est-ce qu'il y a des flics à Lille? Alors attends, on prend le train d'après. Et c'est comme ça partout. C'était des chouettes années, quoi, de réseau auto-organisé. Mais en fait, voilà, c'est comme tu as dit tout à l'heure, ça bouffe la vie, en fait. Je pense que c'est hyper important de tracer quand on est voyageur avec des cartes SIM, des cartes téléphoniques et des cartes vraiment comment est fait la géographie. Ça m'est plusieurs fois arrivé, vous vous souvenez, dans les trains TGV, quand on pouvait encore les frauder, il y avait la petite revue avec la carte des TGV, des trains, des intercités et tout. Et bah, du coup, j'ai déchiré, je l'ai filé aux personnes qui étaient sympas. Et en fait, ça leur permettait de savoir où est-ce qu'ils se trouvaient. Parce qu'une fois, on était à Marseille, super, je suis arrivé, il appelle son ami à Paris, mais en fait, il croyait que c'était à côté, en fait, non. Et du coup, les distances sont complètement différentes. Perçues et vécues, on fait des milliers et des milliers de kilomètres. Et du coup, la France, elle est toute petite par rapport à...
T'essayes jusqu'à quand tu passes. Ton but, c'est peut-être la Suisse, mais t'essayes 1, 2, 3, 4 fois, 10 fois, et ben je descends 20 000, et ben je repasse par Clavière, et ben j'essaie Mont Blanc, jusqu'à quand tu arrives à passer.
The game.
Un des mots que les gens utilisent pour parler des frontières, bah, surtout des personnes d'Iran ou d'Afghanistan qui disent the game.
Oui.
La frontière, c'est un game, c'est un jeu. Et il nous disait « This game is easy ». Parce que pour des personnes qui avaient passé tous les Balkans à pied, la frontière Mont-Genèvre pour aller à Briançon, c'était tranquille. Et en fait, pour un peu réagir à ce qui s'est dit, les personnes qui ont commencé à organiser le soutien aux personnes qui sont victimes de la répression de la frontière et organiser une lutte contre la frontière à Briançon, l'idée de faire des refuges autogérés, c'était de se dire, mais en fait, on va pas tous se cramer à prendre des bagnoles et à aller en prison pour des trucs de passage, parce que les gens, c'est la montagne. En fait, ils pourront jamais mettre des murs là-bas. Et les personnes peuvent passer. Et du coup, c'est juste d'avoir des structures de soutien avant et après pour aider. Et après, c'est sûr qu'il y a... C'est quand même marcher en montagne, c'est pas forcément accessible pour tout le monde, mais... En fait, et l'idée, c'était que ce serait plus pérenne parce que, comme tu dis, très souvent, ce qui se passe, il faut voir que cette frontière-là, en tout cas, les personnes, elles partent, elles se font refouler, elles repartent le jour d'après, elles se font repouler. En fait, les gens, ils vont le faire 4, 5, 6 fois et ça passera toujours un moment. Le taux de passage, il est de 100% en vrai. C'est-à-dire qu'il y a toute une thune qui est mise à payer des flics et tout. Les gens ils passent, c'est du gruyère cette frontière. Après, le problème c'est plus les accidents et puis les conditions et le fait que c'est assez terrible de ne pas pouvoir prendre un bus qui met 20 minutes et devoir faire 8 heures dans la montagne parce qu'on n'a pas le bon document. Mais.
Par rapport à le terme des games, c'est juste en fait parce que tu as mentionné les balcons. Normalement, en fait, c'est aussi. Ça a aussi été pas mal à commencer à utiliser parce que dans les balcons, en fait, dans cette frontière-là, ça arrive que c'est souvent des adolescents, en fait, qui font ce jeu. Et c'est vraiment les jeux, c'est pour ça. Et juste pour info, en fait.
Ok, ça va.
Et ils le font aussi pas avec des groupes, mais ils essayent vraiment seuls. C'est pour ça que des fois, c'est aussi assez comparé à... Ah, tu parlais d'une comparaison avec Clavière et Briançon. Oui, c'est une situation différente, mais ouais, les difficultés sont des autres. Mais du coup, il y a des individus aussi assez jeunes qui font ça en autonomie.
Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse une petite pause pour manger la soupe d'ici 10 minutes? Un truc comme ça? Pour manger. Puis après, on peut reprendre la discussion après coup, mais comme ça, on
Ouais.
Et je profite juste que j'ai pris la parole pour poser une question un peu chiante pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la migration?
Vous êtes pour ou contre le fait que les personnes migrent et partent de chez eux et de l'Europe? Que vous pensez de ça? Voilà.
C'est quoi cette question?
J'avais juste une petite réaction à la Croix-Rouge. Ça a été juste peut-être ça se lit. En fait, on a parlé un peu du fonctionnement à la frontière, de cette frontière-là. Après, c'est vrai que la Croix-Rouge a aussi un fonctionnement en fait, à l'intérieur de ces structures qui visent vraiment à l'assimilation, assimilation, assimilation. Et du coup, ça continue le processus assez de contrôle. À mon avis et à mon expérience,
C'est quoi l'assimilation? L'assimilation de quoi?
Moi je parle plutôt en fait l'assimilation culturelle, mais ce qui en fait appelle comme intégration et tous les processus d'intégration qu'il met en place en fait, ça arrive que c'est souvent de proposer tout ce que c'est aux personnes en fait. De la formation pour des travails, pour oui, apprendre la langue du pays où elles sont les structures, mais aussi si on veut de proposer des formations de travail sur l'endroit où la structure se trouve. Pour des jeunes, par exemple, c'est souvent des métiers qu'en fait ils ne veulent pas du tout faire, mais qui le forment pour se intégrer dans ces milieux. Juste ça.
Moi, je pose la même question, mais une autre chose. On peut dire pourquoi les gens ils quittent leur pays. Pourquoi? C'est ça la question, vraiment la question. Et je fais une petite introduction vite fait. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui quittent leur pays sans raison vraiment majeure. On voit les vagues d'immigration où il y a des guerres, il y a des conflits. Ça, c'est connu. Ça, c'est un genre de solidarité aussi. Mais aussi, il y a moi, où il y a les pays, les régimes dictatoriaux. Et ça, on n'est pas conscient. Par exemple, en Afrique, si on voit, il y a beaucoup plus. Les pays francophones, il y a bien sûr les conflits, la Libye et tout, mais après il y a les pays francophones qui sont considérés ici des régimes stables politiquement. Mais la vérité, c'est pas une dictature, ça fait jamais un système stable. Voilà. Et les gens ils quittent parce que il y a la corruption politique, économique, et les gens ils ont perdu l'espoir. Même s'il y a, tu vois, l'Occident, il le soutient parce qu'ils ont des intérêts, on connaît ça. Et quand tu viens ici, tu viens dans un pays stable. Tu vois, il y a une contradiction. Et ça, je pense, nous, on parle du résultat de l'immigration, mais la vraie cause, il faut qu'on base aussi sur la vraie cause. Soit nous, les gens, les immigrants qu'on vient ici, ça aussi des raisons militaires.
Pendant la pause, peut-être on peut chercher des données économiques. D'ailleurs, par rapport au nord d'Afrique, les milliards que l'Europe dépense pour défendre les frontières.
Ouais, la question est vachement intéressante. Enfin, intéressante, c'est pas d'aujourd'hui. On parle de pays, là, et c'est peut-être un peu là qu'on peut se renvoyer. Cet endroit où les gens vivent qui est intéressant. Savoir ce que sont les pays, pourquoi il y a les frontières, voilà, le problème, c'est que forcément, tu vis dans une zone qui a été définie comme un pays ou une nation par on ne sait trop qui, par un moment donné. Hein, ce n'est pas toujours des concordances culturelles, hein, c'est plutôt des concordances économiques et politiques. Et la question de savoir, si on veut parler des gens qui n'ont pas de papier, déjà se poser la question de savoir pourquoi on a besoin de papier pour circuler, le droit qu'on a de vivre dans un endroit, et arriver à se retirer cette idée de nation ou de pays, une bonne fois pour toutes, parce que quand on parle de gens qui viennent d'un pays, on parle de gens qui quittent un endroit où ils ont vécu. Est-ce que ce pays a un sens pour eux dans ces termes-là? C'est peut-être ça, peut-être un sujet de débat qu'on pourrait approcher, parce que ça amène justement tous ces déplacements de population sur des pour X raisons. Hein. On peut avoir aussi le droit d'avoir l'envie de voyager. Hein. C'est pas, je vois pas pourquoi il y aurait des bons voyageurs et des mauvais voyageurs, des nécessiteux ou pas. Je veux dire que c'est ne serait-ce que le respect du droit à l'individu d'aller, de pouvoir aller où il veut, et en plus s'il fuit la misère ou s'il fuit quelque chose, s'il a besoin de partir pour reconstruire autre chose ailleurs, il a le droit tout à fait de la même manière que n'importe qui. Je crois que là ça peut être intéressant parce que justement on peut avoir un rapport sur tout ce qui se passe soit à Calais ou vers Briançon ou un peu partout et puis aux frontières partout dans le monde en ce moment. C'est catastrophique.
Moi, je vais quand même prendre la parole. La question, c'est qu'est-ce qu'on pense de la migration ? C'est ça ?
Ouais, ok.
Moi, ça n'en a pas. Pourquoi les gens partent ?
Pourquoi la migration ?
Mais en fait, moi, je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, mais je voulais rajouter, j'essaie d'organiser un peu ça. Il y a déjà des choses qui ont déjà été dites, c'est que vraiment, quand on est... Moi, quand j'ai rencontré des personnes qui correspondent à ce que vous dites, qui sont en migration... Il y a quand même des cas très très différents. Il y a vraiment plein de profils de personnes différents. Et puis, en fait, moi personnellement, j'étais pas. Quand je rencontre quelqu'un, la personne va partir d'une journée après, j'étais pas là à dire alors pourquoi t'es là ? Raconte-moi. En fait, c'est aussi des choses. Mais j'ai rencontré des gens qui sont mes amis, avec qui, du coup, les discussions elles se sont faites. On a appris un peu mieux la vie des personnes. Et. Moi je vais pas vraiment répondre à ta question parce que en fait moi je pars un peu de ce truc que en fait on a le droit de se déplacer et d'aller habiter où on veut. En tout cas pour moi c'est même pas un droit, c'est genre une évidence dans le sens physique du terme, c'est-à-dire que corporellement on peut se déplacer et aller où on veut. C'est-à-dire que les barrières administratives pour moi c'est des choses qui sont pas vraiment tangibles, en tout cas auxquelles je ne reconnais pas vraiment une réalité. Après, je m'y plie parce que, comme tout le monde, j'y suis soumis. Et après, c'est vrai que pour moi, ces questions de frontières, souvent, c'est un peu... Bon, il y a une montagne, les gens traversent, et d'un seul coup, ça prend un sens de dingue. Pourquoi ? En fait, moi, je comprends pas forcément. Et après... Moi, ce qui m'importe dans cette lutte, c'est que, comme je disais, voilà, je suis assis à côté de quelqu'un, c'est un ami. En fait, nos manières de vivre et toute notre vie est complètement influencée par un document et une question de où tu es né. Et on n'a absolument pas les mêmes droits, on n'a pas la même liberté d'exercer simplement de faire notre vie l'un comme l'autre. Et je voulais juste donner un autre détail qui, moi, m'a frappé, c'est-à-dire que souvent, par exemple, j'étais un peu, quand j'ai commencé à m'investir là-dedans et à rencontrer beaucoup de personnes qui étaient en Europe sans avoir de documents valables et du coup qui étaient dans des situations parfois compliquées parce que toujours qui avaient peur de la répression, très souvent, je n'osais pas trop parler de chez eux, parce que ça me gênait un peu et puis que je pouvais avoir l'impression d'avoir une position. Des fois, je me disais non, mais... Là, j'ai l'impression qu'il a trop envie de rentrer chez lui, mais si je lui dis « rentre chez toi », ça veut dire que je suis un facho, et puis il me dit « non, je peux pas dire ça ». Et en fait, de comprendre aussi que quand les gens ils ont pas de documents, ils ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire que tu peux pas aller prendre un avion, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi, tu ne peux pas. Il y a aussi des personnes qui sont venues, qui sont là, qui ont pu faire des choses, qui ont pu travailler. Si la situation administrative elle est pas réglo, en fait, t'as des personnes qui font... des migrations circulaires dans toute l'Europe pour essayer d'avoir des documents. Et très souvent, c'est pour pouvoir rentrer, juste aller dire bonjour à quelqu'un de la famille, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça peut aussi, c'est pas seulement venir quelque part, mais ce truc de la migration, pour moi, c'est aussi un piège. Ce qu'on met derrière, en fait, c'est qu'il y a, moi, il y a plein de gens que je connais qui sont un peu dans ce piège-là, de ce statut-là. Et tant que t'as pas réussi à choper un passeport européen, ce sera toujours des emmerdes et les gens sont pas forcément aussi... je sais pas comment dire. Quelqu'un peut l'exprimer mieux. Mais... Moi, je me disais, oui, si la personne est là, c'est sûr que la personne n'a pas envie de rentrer chez elle. Mais en fait, peut-être ça n'a rien à voir, des fois, on se met des... Tu vois.
Ça a à voir avec une position... Des fois, on positionne des privilèges qu'on a, en fait, et des fois, on ne remarque même pas, en fait, dans quelle position on est face à ça, à mon avis, je sais pas.
Moi, ouais, pardon, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais je crois qu'il y a à peu près 80% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. Et quand on a pris l'avion, je pense que tout le monde ici l'a déjà pris, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, moi, j'ai eu de la peine quand j'ai entendu ce chiffre, c'était quelque chose qui me semblait... tellement évident, tellement simple et banal, comme tu dis, toi tu es en Grèce, tu peux prendre l'avion. Mm-hmm. Et puis tout ce que ça présuppose, j'ai le passeport, j'ai l'argent, etc. Et puis par rapport à la question de Théo, par rapport à la migration, j'avais entendu un truc qui m'a aussi pas mal choqué, c'est le territoire où l'on vit n'est pas le territoire dont on vit. Et c'est vrai que ça, on n'a pas tellement... maintenant de plus en plus, mais cette conscience que si on a beaucoup ici, énormément, et beaucoup trop, c'est parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a très très peu, et puis ces gens, ben c'est vrai, il y a cette Europe mythologique dont tu parlais, qui fait rêver tout le monde, et puis quand les gens viennent ici, ils se rendent compte, mais quelle pauvreté ici, finalement. Et puis cette migration circulaire, c'est peut-être aussi qu'une fois qu'ils sont arrivés chez nous, ils se rendent compte que ben, c'est quand même pas aussi jojo que ça, quoi. Donc cette migration, je pense que c'est aussi étonnant de voir que les plus grands migrateurs, c'est finalement les Européens qui vont en avion voir ces gens qui sont tellement souriants, ils sont tellement,
les colonisateurs.
tellement choux, et puis ils dansent toute la journée, puis il fait chaud et c'est sympa, mais on est aussi tout le temps en train de partir de chez nous. Et il y a vraiment quelque chose dans ces frontières qui est assez inexplicable. Enfin, à part ça, dans l'histoire, on n'a jamais réussi à arrêter l'immigration. Hein. Les gens, je trouve intéressant ce que tu dis, ce taux de réussite de 100%, il est assez frappant. Puis juste pour terminer, une question, est-ce qu'il y a très peu de personnes qui meurent dans la montagne? Parce qu'on parle, on fait tout à coup tous les titres, parce qu'il y a une barque, un bateau qui a coulé avec 6 ou 10 personnes, on voit les photos de ces gens, ces vies. Mais est-ce que ce passage, tu as parlé avant de corps qui sont découverts, mais est-ce qu'il y a finalement relativement peu de décès, du coup, qui est très peu médiatisé, cette frontière?
Ah, elle n'est pas médiatisée du tout.
Ouais.
C'est, bah, du coup, au mois de janvier, c'est 2 personnes qui sont mortes. Une personne, Fatala, de 31 ans, ex-militaire, qui travaillait à la frontière entre Maroc et Algérie. Du coup, quelqu'un physiquement assez bien entraîné. Il est mort, ça se comprend pas bien trop comment c'est en train d'eux. D'ailleurs, il y aura... Enfin, bref. Et 31 ans, le 2 janvier, et 2 semaines après, une personne de 15 ans, d'origine afghane, est morte, a été trouvée deux ou trois jours après sur les voies du train avec la tête écrasée. Du coup, c'est les morts officielles maintenant, c'est 10, sont tous morts à cause de la frontière, et parce que, pas parce que la montagne est dangereuse, parce que c'est un suivi, parce que si tu marches sur la nationale, c'est pas dangereux, et en une heure, t'arrives, quoi.
Si tu prends le bus, ça met 15 minutes.
Ou en voiture, tu mets 15 minutes, quoi.
Voilà.
En fait, oui, on parle... Là, il y a beaucoup moins de neige, mais beaucoup plus de flics. Donc, le truc de... Le passage, c'est que, par exemple, les personnes kurdes, moi, il y en a 3 qui sont restées ici, sont partis depuis Ulx, avec des skis sur leur dos, et tout seuls, ils étaient très capables de map, sont arrivés à Briançon. Après, tu as des personnes que pendant 10 fois, tu leur répètes, mais si tu vois le drapeau de la France, faut pas aller là-bas. Parce que, en fait, c'est la PAF, tu vois, c'est la police. Ça dépend beaucoup des personnes et de leur connaissance du terrain. Parce que la montagne est très dangereuse. Et si tu ne la comprends pas, tu peux avoir des bons chaussures, des bons pantalons de ski et tout ce qu'il faut avec. Mais en fait, si tu la comprends pas, tu vas te faire mal. Si on est au point où on est, c'est parce qu'il y a des militants qui en fait luttent aux frontières. Sinon, beaucoup plus de personnes seraient mortes. Les flics ils seraient beaucoup plus violents, parce qu'au début, c'était pas comme ça. La personne dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui est revenue au refuge, ben, en fait, ils l'ont presque tabassé, ils lui ont tout volé, et c'était un mineur. Il y a une personne enceinte qui est interdite de rentrer. Du coup, ah ben, 9 mois enceinte, essaie de rentrer jusqu'à Oulx. Enfin, voilà. Après, grâce au travail aussi sur au niveau légal, ça s'est fait qu'au final, les flics ont un peu baissé la tête, mais pas plus que ça, quoi. On n'est pas au niveau des Balkans, on n'est pas au niveau de Ventimille, mais on est quand même à ce niveau-là. Et puis, on ne sait pas combien de morts il y a sur les montagnes tout haut. Et il faut aussi considérer, bah, dans les dernières années, je parlerai de plus d'une vingtaine de personnes qui étaient dans des situations très dangereuses. Ils ont été après sauvés. Ça, c'est aussi parce que les bénévoles disent d'appeler le 112, donc le numéro de la police en cas de danger.
Et ça court en montagne.
Et donc, mais des gens ont été trouvés complètement, mais vraiment complètement ailleurs. Mais c'est le truc, là, tu vas nulle part, tu vas juste vers la mort. Donc, mais pour revenir à la situation de la migration, je pense que tout simplement, je sais pas, moi j'adore voyager. Heureusement, je suis une enfant de migrants. Heureusement, mon père a eu la nationalité italienne. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait pour le faire aussi cool et en s'amusant. Mais ça fait partie de la nature humaine, tout simplement. Et je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas le faire. Plutôt, je me poserais la question, pourquoi on migre vers quelque chose d'autre? Du coup, on part de la question néocolonialiste. Personnellement, en parlant du nord de l'Afrique, faudrait que tout le monde parte. Si on parle de ça, à une volonté politique, en fait, de vouloir effectivement réussir à faire quelque chose de différent, comme... moi, je me tombais assez bien avec les personnes du Kurdistan. La plupart étaient politisées. Ils venaient avec une conscience assez forte par une histoire qu'il y a eu en disant « l'Europe, c'est de la merde, et c'est un peu moins merde que chez moi ». Donc, faut vraiment voir... Il y a des cas très très longs, et c'est plutôt pourquoi on est poussé à migrer. Et qu'est-ce que, en fait, notre privilège de vivre en Europe nous ramène, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Européens? Qu'est-ce qu'en fait l'Europe fait au jour d'aujourd'hui pour pousser les gens à migrer? Parce qu'on parle de la personne politisée à la personne qui n'a pas d'argent pour pouvoir se payer les soins, à la personne en fait qui a des avalanches, pas des avalanches mais des gros flottes pour avec des périodes sans eau parce que en fait on est en train de creuser toute sa terre quoi et d'exploiter tout ce qu'il y a. Mais à la fin la cause en fait, laissez-moi utiliser ce mot, c'est les gouvernements blancs. Moi je reviendrai à ça un peu.